sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Barthas et il est très exactement midi et des poussières dans le sud de la Lozère. Aujourd'hui dans cette émission, on vous emmène pas très loin sur un cause voisin, celui du Larzac, avec l'auteur et comédien Philippe Durand. Il y a récolté les paroles de paysans et paysannes, habitantes et habitants, qui témoignent que 40 ans après la lutte emblématique contre l'extension du camp militaire, les formes d'organisation collective qui y ont émergé sont toujours bien vivantes et l'engagement pour une gestion solidaire des terres agricoles, qualifiés au départ d'utopie, demeure aujourd'hui une réalité féconde. Mais avant ça, on commence en musique avec un morceau écrit en 1966 en l'honneur d'autres paysans, bien plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil. Le compositeur Chico Buarque chante un poème de l'auteur João Cabral de Melo Neto, Funeral de Lavrador, qui évoque l'enterrement d'un paysan, un paysan sans terre, dont le seul lopin qu'il ne possédera jamais sera la fosse dans laquelle il sera enterré. Un texte qui critique le système des latifundia, ces grandes parcelles d'agriculture extensive où la propriété foncière est concentrée entre les mains de quelques-uns et qui dénonce l'exploitation des fermiers qui en découle, un système violent et inégalitaire hérité de la colonisation portugaise et de l'esclavage contre lequel le mouvement des sans-terres brésiliens lutte encore aujourd'hui. Funeral de Lavrador de Chico Buarque, c'est tout de suite sur Radio Barthas.
Em que estás um palmos medida é a conta menor que tiraste em vida
e a conta menor que tiraste em vida
é de bom tamanho nem largo nem fundo é a parte que te cabe deste latifúndio
e a parte que te cabe deste latifúndio
não é cova grande. É cova medida, é a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo.
Estarás mais ancho que estavas no mundo.
É uma cova grande pra teu defunto parco. Porém, mais que no mundo te sentirás lá.
Porém, mais que no mundo te sentirás lá.
É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca.
Mas a terra dada não se abre a boca.
Deste latifúndio é a terra que querias
viver dividida, estarás mais ancho que estavas no mundo, porém mais que no mundo te sentirás largo, mas a terra dada não se abre a boca, mas a terra dada não se abre a boca.
C'était Chico Buarque. Chico Buarque avec ce magnifique et bouleversant titre Funeral de Labrador sur Radio Bartas. Et on quitte le Brésil, direction maintenant le Larzac.
Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre.
La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier.
Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi.
On était condamnés à disparaître.
On s'est dit à ce moment-là, ben, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix.
La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs.
Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire, parce que nous, on sait comment la prendre, une brebis. Des flics.
Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une araignée. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait. Quoi.
L'argent, il manque que ce mot à la bouche.
Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera.
On répondait à une agression.
Ils ne devaient pas comprendre d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors et continuer à vivre. Oui, on investit, oui, on continue.
De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif quand même.
On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin.
Le père Palot lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne le prendront pas.
On vient d'entendre la bande-annonce du film de Christian Rouault, Tous au Larzac, qui était sorti en 2011 et qui retrace les 11 années de lutte de 1970 à 1981 qu'ont mené les paysans et paysannes pour s'opposer à l'expropriation de leurs terres en vue d'un projet d'extension du camp militaire sur le plateau. Une lutte fondatrice où les paysans seront rapidement rejoints par d'autres militants de différentes obédiences dans une dynamique de convergence des luttes de désobéissance civile contre l'autoritarisme et pour le respect et la prise en compte de la parole citoyenne. Un autoritarisme couplé à un immense mépris aussi. On l'entend dans la bande-annonce, André Fanton, qui était donc le secrétaire d'État à la Défense nationale au sein du ministère de Michel Debré. Elle est un peu tronquée, la citation dans la bande-annonce, donc je vais le citer entièrement. Donc il dit « Qu'on le veuille ou non, la richesse agricole potentielle du Larzac est quand même extrêmement faible, donc je pense qu'il était logique de considérer que l'extension du Larzac ne présentait que le minimum d'inconvénients. » Alors la contrepartie, c'est le fait qu'il y a quand même quelques paysans, pas beaucoup, qui élevaient vaguement quelques moutons en vivant plus ou moins moyenâgeusement et qu'il est nécessaire d'exproprier. Voilà, fin de citation. Et n'en déplaise donc à Monsieur Fanton, ces quelques paysans ont finalement gagné. En 1981, suite à l'élection de François Mitterrand, le projet est abandonné, le camp militaire ne sera pas étendu. Alors si ces années de lutte sont bien connues et documentées, les suites de cette victoire et l'histoire actuelle le sont moins, et pourtant elles sont très importantes. En 1985, les fermiers et habitants du Larzac créent la Société Civile des Terres du Larzac, la SCTL, un outil de gestion collectif et solidaire des terres agricoles qui attribue les exploitations, fixe les montants des baux ruraux et élabore les règles de gestion entre les différents usagers des terres. Et c'est à ce laboratoire foncier unique en France qui fonctionne toujours qu'a choisi de s'intéresser l'auteur et comédien Philippe Durand dans sa pièce Larzac, qui sera jouée ce soir à la salle polyvalente du Pont de Montvert, jeudi à Saint-Étienne-Vallée-Française et vendredi à Saint-Michel-de-Dèze. Et j'ai échangé avec lui la semaine dernière. Entretien.
Oui, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le plateau du Larzac, c'est le fonctionnement de cet outil de gestion. J'évoque un peu la lutte, j'évoque un peu l'historique de la construction de cet outil, mais c'est cette gestion-là, oui. Le contexte agricole qu'on connaît en France, qui arrive complètement à bout, quand on voit leur fonctionnement à eux, qui développent une agriculture paysanne, c'est le seul endroit où il y a plus de paysans aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 80, grâce à ce système. on voit bien que c'est de leur côté qu'est l'avenir de l'agriculture française. Partout, la tendance est à l'agrandissement. La valeur foncière est une valeur refuge pour des tas d'investisseurs aux dépens de l'agricole, aux dépens de l'agriculture paysanne. Donc là, il y a une espèce de modèle de protection d'un espace agricole raisonné, on va dire, qui est formidable. Ouais. Ce territoire, en fait, c'était, pour repréciser, hein, c'est effectivement les suites de la lutte, c'est-à-dire que c'est tout le territoire que l'État avait racheté en vue de l'extension du camp. Et une fois que Mitterrand arrive au pouvoir, discussion entre paysans, paysannes et habitants de ce territoire avec l'État, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est la solution qu'ils vont trouver, cette gestion collective, par l'intermédiaire d'une structure juridique qui est une SCI, que eux font vivre comme une coopérative, en fait. Si vous voulez, les deux piliers du fonctionnement de cet outil, c'est d'un, la valeur d'usage. C'est-à-dire que quand un fermier, une fermière rentre dans une ferme, il paye une valeur d'usage qui est déconnectée du prix du marché. C'est des grilles de points qu'ils attribuent en fonction de l'électricité, l'eau, l'isolation, voilà. Et le bail de carrière. Quand le fermier et la fermière qui rentrent dans cette ferme arrivent à sa retraite, ils doivent partir. Et c'est le suivant qui va payer la valeur d'usage qui est réévaluée au moment où il s'en va. Et c'est essentiel, voilà, c'est la chose extraordinaire qui permet à des gens qui n'ont pas d'accès au foncier, et je joue ce spectacle depuis plus de 3 ans partout en France, et j'en rencontre tellement, le foncier agricole est tellement élevé que les jeunes paysans paysannes ne peuvent pas y avoir accès. Là, même la ferme la plus fonctionnelle, la plus confortable, au prix du marché, elle vaudrait presque près d'1 million d'euros. La valeur d'usage la plus élevée, elle est à 150 000 euros.
Voilà, donc ça évite les situations de surendettement qui sont quand même assez courantes dans le monde agricole. Et on sort aussi complètement de la logique de la spéculation foncière et on n'est pas soumis au bon vouloir des banques qui nous disent comment gérer l'exploitation. Ça a été un vrai laboratoire foncier unique, une expérience collective de solidarité et c'est une grande réussite qui devrait faire modèle en fait. Et pourtant, c'est assez méconnu finalement, cette histoire-là aujourd'hui, qui continue encore aujourd'hui. Tout le monde connaît la lutte en effet, mais cette société civile des terres du Larzac et son fonctionnement, ça reste méconnu.
Ben oui, et je ne vous cache pas qu'on est dans un monde capitaliste qui ne met pas en avant ce type d'aventure, malheureusement. Et je le vois, mais moi j'ignorais tout de ce fonctionnement, de cet outil. Et je vois à quel point des gens qui se disent « mais mince, on est militant, on est dans ces trucs-là et on ne connaît même pas cette histoire ». Donc oui, effectivement, non, c'est bien. Et chaque fois qu'on sort, c'est un petit peu un marronnier dans la presse. On sort un peu de Larzac, on ressort les histoires de la lutte, deux, trois images de chars et de gens qui disent « garde à rem », mais on ne parle pas du vivant, de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que sur le papier, cette histoire-là que je viens de détailler avec ces histoires de valeur d'usage et de bail de carrière, sur le papier, c'est une utopie. Tout le monde dirait, mais non, mais ça ne marchera jamais. Ça fait 40 ans que ça dure.
Garde à rêve, donc c'était un des slogans de la lutte. Ça veut dire, on gardera nos terres. Voilà, maintenant, c'est bien. On a posé vraiment le contexte un peu technico-technique de comment fonctionne ce système de gestion agricole et foncière sur le Larzac. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'aspect de création artistique que vous avez mené pour fabriquer ce spectacle. Vous êtes allé rencontrer beaucoup de monde sur le plateau. Vous avez récolté des témoignages.
Oui, mon travail, moi, je vais rencontrer les gens, les hommes et les femmes de tout âge. Enfin, j'essaie d'avoir un peu un panel un peu divers. Après, c'est pas exhaustif, hein, c'est pas scientifique, mais j'enregistre le son des interviews. Ensuite, je dérush, et quand je dérush, je retranscris ce qui me semble potentiellement intéressant, mais en gardant les paroles brutes. L'ossature de mon travail artistique, c'est mon amour pour ces paroles qu'on entend très peu sur les plateaux. Je garde les paroles brutes avec les répétitions, avec les fautes de français, avec les hésitations, et je garde la musicalité de la parole. Ce que ensuite, sur le plateau, je fais entendre au public, à 95%, c'est leur parole. Jamais je ne parle en mon nom, et c'est une parole très vivante qu'on entend sur le plateau et qui c'est le...
C'est un seul en scène, mais finalement, vous êtes habité par tous ces témoignages, toutes ces voix que vous avez croisées. Et alors, comment est-ce que vous avez rencontré ces personnes? Comment se sont fait les rencontres? Et est-ce qu'elles se sont toutes bien passées?
Moi, je suis arrivé par l'intermédiaire de Christian Roux sur le plateau en rencontrant les historiques, donc les anciens, Oui, tout le monde m'a bien accueilli. Je crois qu'il y a une personne qui a refusé de me parler, c'est tout. Et puis après, je crois que tous, de toute façon, chacun, ils sont toujours, chacun, chacune, contents de raconter le système de la SCTL. Ils sont pas toujours, c'est pas toujours simple parce que c'est tellement une forme de révolution dans la tête. Il y a plein de gens qui, à chaque fois qu'ils veulent l'expliquer, ils comprennent pas. Et donc, ils ont une certaine, des fois, méfiance de, ils ont pas toujours envie d'expliquer. Il y a même un paysan qui m'a dit la dernière fois, ben, les gens avec qui je veux en parler, avec qui ça, ils arrivent jamais à comprendre, et au bout de 5 minutes, on arrête. Ils ont vu ton spectacle et ils ont compris. Parce que moi, je les tiens pendant 1h30. Et puis, je passe par de, même si ça commence le début du spectacle, un peu comme notre début d'interview où je suis obligé de rentrer dans le détail technique, mais après, ça passe par la vie des gens, par l'intime des gens. Et puis, c'est des sujets qui sont universels. Notre rapport à la propriété, notre rapport à la transmission, au commun, au collectif. Voilà, c'est des choses que, même quand je joue dans les villes, c'est pas que les paysans, paysannes que ça concerne, hein, ça concerne tout le monde.
Il y a un point d'exclamation au titre de votre spectacle. Larzac, point d'exclamation. Pourquoi ?
Mais parce que quand on voit l'histoire de, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, le cul-de-sac dans lequel est l'agriculture française, l'agriculture en général, voilà, quand tu vois ce qui se passe sur le plateau du Larzac, on s'exclame. Larzac, ben c'est vers ça qu'il faut aller. C'est eux qui ont raison. C'est eux qui sont l'avenir. Sinon, on se tire une balle. Hein.
Merci beaucoup, Philippe Durand. La pièce Larzac est à voir ce soir à la salle polyvalente du Pont de Montvert, demain, jeudi 7 mai, à Saint-Étienne-Vallée-Française, et vendredi, le 8, à la salle polyvalente de Saint-Michel-de-Dèze. Toutes les infos et pour la billetterie, c'est sur le site des Scènes Croisées.
Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons de gré. De force, nous garderons l'Arzac, de gré, de force, nous garderons l'Arzac.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières, et vous allez l'entendre, la lucha sigue, la lutte continue, comme on dit, avec la Minute de Masque, tout de suite sur Radio Barthas. La Minute de Masque, un morceau de musique raconté par Max en 1 minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Alors, qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui, Max ?
Alors, un petit morceau, voilà, en relation avec la proximité du 1er mai. Je me suis levé, j'ai pensé à ça, je me suis dit que ça serait peut-être bien. Donc, c'est l'affiche rouge de Léo Ferré, voilà, sur un texte d'Aragon. Et j'ai un peu grandi avec, et là, récemment, je l'ai réécouté, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien, en cette période un peu spéciale sur Terre, d'avoir une petite pensée et de faire un hommage à tous ceux qui sont morts pour la liberté.
Parce qu'il faut peut-être donner un peu de contexte pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément l'histoire de l'affiche rouge.
Oui, alors c'est l'affiche qu'a fait paraître la propagande nazie après avoir incarcéré et finir par fusiller un groupe FTP, MOI.
Donc FTP, c'est
Franc-tireur partisan. Et MOI, c'est main-d'œuvre immigrée. Ce qu'on est tous ici, d'ailleurs. Après.
Voilà, donc c'était une affiche sur laquelle figuraient tous les noms de ces personnes-là qui avaient été fusillées.
Alors,
dont
Pas tous. Non, il y en a un notamment, Rino de la Negra, qui n'est pas sur l'affiche, mais qui a été fusillé quand même.
Et le plus célèbre d'entre eux, c'est
Manoukian. Voilà, c'était le chef du groupe, qui a écrit une très belle lettre avant d'être fusillé d'ailleurs.
Donc une affiche très très funeste, mais qui a inspiré ce très beau texte à Aragon.
Voilà.
Et que Léo Ferré a mis en musique et l'a chanté.
Tout à fait.
Eh ben, on a évidemment pas tout dit sur ce sujet, mais on a dit suffisamment peut-être pour écouter le morceau.
Avec plaisir.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà. Que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Quel morceau?
C'est un beau texte.
C'est un beau texte et une interprétation. On dirait qu'il va pleurer Léo Ferré à des moments.
Bah, il était un peu barré, oui, ça c'est sûr.
Voilà, donc c'était en l'affiche rouge de Léo Ferré, donc en hommage à ses résistants étrangers. Et donc voilà, le plus connu d'entre eux c'était Manoukian. D'ailleurs, on les a appelés le groupe Manoukian. Et c'est un peu une émission quand même dédiée aux luttes, parce que juste avant, on parlait de la lutte du Larzac. Donc aussi des résistants finalement, d'une certaine manière.
Peut-être un petit truc, là, j'ai parlé tout à l'heure, il y avait une des personnes fusillées dans le groupe Manoukian, là, qui était footballeur au Red Star. Et c'était d'ailleurs, il a passé une paire d'années en tant que footballeur, alors qu'il était en fait sans papier, recherché par tout le monde. Et sa couverture, il était footballeur au Red Star.
Le Red Star, c'est le club d'Aubervilliers?
Non, de Saint-Ouen, l'ancienne banlieue rouge au nord de Paris, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont refait le stade et il y a une tribune qui porte son nom.
Tu peux redire son nom ?
Rino de la Negra.
Eh bien, merci beaucoup, Max.
Mais avec plaisir.
Et à la semaine prochaine.
À bientôt.
La Minute de Masque. Un morceau de musique raconté par Max en une minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Midi
et des poussières sur Radio Bartas.
Et tout de suite, nous sommes mercredi, c'est donc l'heure de la rubrique Parlons Ciné avec Cinéco, exceptionnellement enregistrée par Léo, que je remercie. Et vous allez l'entendre, c'est encore une histoire de résistance, décidément, racontée cette fois non au théâtre ni en musique, mais au cinéma.
Parlons Ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco.
L'association de cinéma itinérant en Cévennes. Sur Radio Bartas. Aujourd'hui, avec nous pour cette rubrique cinéma, Jérôme. Bonjour Jérôme.
Bonjour Léo, et bonjour à vos auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
Tu vas nous parler aujourd'hui du film Orwell 2 plus 2 égale 5.
Ouais, c'est ça. Alors, je vais commencer cette chronique en étant totalement honnête. Je n'ai pas vu ce film documentaire, et en général, à la radio, on évite de dire ça. Parce que notre rôle, c'est plutôt de conseiller, de recommander, de donner envie en ayant vu l'œuvre cinématographique. Alors, plutôt que de me défiler et d'annuler la chronique, ça m'a donné envie de faire autrement aujourd'hui, de me poser une question simple. Pourquoi est-ce qu'on irait voir un documentaire au cinéma? Et pourquoi ce documentaire, Orwell, 2 plus 2 égale 5? C'est plutôt de bonnes questions. Pourquoi aller voir un documentaire en salle aujourd'hui? Parce qu'un documentaire au cinéma, ce n'est pas un reportage. Ce n'est pas juste de l'information. C'est une écriture, un regard d'auteur, une manière de raconter le réel. Il y a du montage, de la mise en scène, du son, du rythme, une émotion, bref, du cinéma. Et puis, il y a autre chose, le fait d'être ensemble. Voir un documentaire seul chez soi ou dans une salle, ce n'est pas pareil. Dans une salle, il y a un silence partagé, une attention commune, une manière d'accueillir ensemble ce qui se joue à l'écran. Et puis, après la séance, quelque chose qui circule encore, qui nous habite et parfois nous hante. Il y a une discussion qui naît, parfois tout de suite, parfois le lendemain, entre inconnus, entre collègues, entre amis, entre amants, au café, devant la grille d'une école, un abribus ou au détour d'un chemin de randonnée. Ces documentaires, ce sont aussi des œuvres qui nous aident à comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est exactement le cas de ce film documentaire. Alors justement, ce film, il s'appelle comment et de quoi il parle? Il s'appelle Orwell, 2 plus 2 égale 5. Et rien que ce titre, déjà, moi, ça m'intrigue. Le film nous plonge dans les derniers mois de la vie de George Orwell, au moment où il écrit 1984. Donc là, je vais vous lire le synopsis que j'ai donc trouvé sur le dossier de presse du documentaire. 1949, George Orwell termine ce qui sera son dernier des plus importants romans, 1984. Orwell, 2 plus 2 égale 5, plonge dans les derniers mois de la vie d'Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu'il a révélés au monde dans son chef-d'œuvre dystopique. Des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd'hui. En travaillant sur cette chronique, en lisant différents articles et dossiers de presse, je me suis rendu compte que ce n'est pas un simple biopic. Ce que cherche le film, c'est comprendre d'où viennent ces idées. Ces idées qui ont donné naissance à des concepts qu'on utilise encore aujourd'hui. Big Brother, la novlangue, la double pensée, le crime par la pensée et bien d'autres encore. Des mots qu'on entend tout le temps, parfois sans savoir qu'ils viennent de lui. Et surtout, le film pose une question très actuelle. Pourquoi ces idées résonnent encore autant aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Ce que suggère le film à travers son intention, parce que je ne l'ai pas vu, je vous le rappelle, c'est qu'Orwell avait déjà perçu beaucoup de choses. La surveillance, la manipulation de l'information, les fake news, la manière dont le langage peut être utilisé pour déformer la réalité. Et cette idée très forte, un monde où la vérité devient relative. Aujourd'hui, un temps où la vérité devient une opinion d'ajustement. Où au fond, 2 plus 2 peuvent finir par faire 5. Et là, moi, sans avoir vu le film documentaire, je me suis dit « Ok, ça m'intéresse. Il faut que je voie ce film pour ma survie intellectuelle ou ma survie tout court. » Parce que bon, quand même, les gars, en ce moment, c'est un peu chaud quoi autour de nous. Alors, je crois que ce n'est pas seulement un film sur un écrivain. C'est un film sur nous, sur notre rapport au réel. Maintenant, je vais vous dire un mot quand même sur le réalisateur, parce que c'est aussi ça qui donne envie d'y aller. Le film est réalisé par Raoul Peck. C'est un réalisateur né à Port-au-Prince en 1953, et en préparant cette chronique, je me suis aperçu qu'il avait été ministre de la Culture de la République d'Haïti de 1995 à 1997, et qu'il était aussi président, qu'il avait été président de la FEMIS de janvier 1910 à janvier 2010 à janvier 2019. Il n'est pas si âgé que ça. C'est un cinéaste très reconnu qui fait un cinéma engagé, politique, mais toujours accessible. Il a notamment réalisé I Am Not Your Negro, un documentaire sur l'écrivain James Baldwin, qui a été nommé aux Oscars et qui a beaucoup marqué les spectateurs. Tout comme son long métrage de fiction, Le jeune Karl Marx, sorti en 2017, si je me trompe pas, et qui est aussi passé sur les écrans de Cinéco. Donc ce que fait très bien ce réalisateur, c'est prendre des figures intellectuelles et les rendre vivantes, actuelles, presque urgentes. Il ne fait pas des films sur le passé. Il fait des films qui nous parlent du présent. Donc, on est vraiment sur un documentaire engagé, mais pas au sens militant ou fermé. C'est un cinéma qui pose des questions, qui nous met face à des idées. Et c'est ça qui est intéressant avec le documentaire aujourd'hui. Ce n'est pas un genre à part. C'est un genre qui nous aide à comprendre le monde mieux. Et des réalisateurs comme Raoul Peck ou encore Alex Givney, Michael Moore, et sans aller si loin, on pourrait citer Gilles Perret, par exemple, en France, tout comme Agnès Varda, Mariana Otero, ou encore Alice Diop. Ce sont toutes et tous des réalisateurs qui travaillent vraiment là-dessus. Raconter le réel, mais avec du cinéma. Alors, vous allez me dire, toi qui ne l'as pas vu, est-ce que tu as envie d'aller le voir? Ben oui. Et c'est peut-être ça le plus important dans cette chronique, c'est que je ne l'ai pas vu, mais que j'ai envie d'y aller. Parce que j'ai l'impression que c'est un film qui ne va pas seulement me raconter une histoire. C'est un film qui va m'alimenter, me compléter, me complémenter, faire en sorte que je me sente moins à l'étroit. Et si un film peut faire ça, alors ça vaut le coup de s'asseoir dans une salle de cinéma et de prendre le temps de regarder, d'écouter ensemble. À bientôt.
À bientôt et n'hésitez pas à aller voir des documentaires en salle.
Merci à Jérôme pour cette chronique et merci encore à Léo pour l'enregistrement. Vous pouvez aller la réécouter ainsi que toutes les autres sur la page Parlons Ciné avec Cinéco sur le site de Radio Bartas. Et pour voir le film, quelques séances prévues, vendredi à 18h à Saint-Frézal de Ventalon et puis la semaine prochaine, le 17 mai à 16h30 à Cassagnas, à Florac ce sera le 20 mai à 21h et à Ispagnac le 29 mai à 21h. Toutes les séances sont sur le site de Cinéco. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous retrouve demain pour un prochain épisode. On parlera du festival Doc Seven, dédié au cinéma documentaire justement, qui débute la semaine prochaine à la salle dans le Gard. Et on célébrera les 80 ans de l'UDAF Lozère, l'Union départementale des associations familiales.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.